Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée comme chaque jour par Perrine Suquet et Laure Broulard. Et aujourd'hui c'est Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de notre émission. À la une, vous l'avez entendu, on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. C'est l'attentat de la rue des Rosiers, presque 33 ans, ça fera 33 ans le 9 août prochain. On en reparle de cette affaire, bien sûr, beaucoup, parce que après 33 ans presque d'enquête, des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés par trois membres importants de ce commando, ce qui fait que tous les membres, évidemment, et le chef du commando sont maintenant identifiés. C'est de cela dont nous allons parler avec mes invités. Mais d'abord, un retour, 9 août 1982, 14h sur RTL, c'est l'heure du flash.
Un attentat antisémite s'est produit vers 13h à Paris. Un commando a tiré contre des consommateurs du restaurant Goldenberg, rue des Rosiers, et non pas contre la synagogue, comme on l'avait cru initialement. Pour un premier bilan et les circonstances de cette fusillade, nous retrouvons tout de suite sur place Pierre Julien.
Oui Martine, il était environ 1h20 à peu près lorsque plusieurs hommes ont poussé la porte du restaurant Goldenberg, le fameux restaurant cachère rue des Rosiers. Ils ont aussitôt lancé une grenade qui a explosé près de la caisse, puis ils ont tiré à la mitraillette sur les personnes qui déjeunaient. 5 d'entre elles ont été tuées semble-t-il et une douzaine d'autres blessées. Les terroristes, qui étaient apparemment au nombre de 6 ou 7, ont alors pris la fuite, mais des policiers qui gardaient la synagogue qui est à proximité sont intervenus. Ils ont été eux aussi pris à partie et l'un des policiers a été blessé. Les tueurs ont disparu, mais le quartier est actuellement quadrillé et un immeuble est fouillé de fond en comble par les policiers et les inspecteurs. Les sapeurs-pompiers, bien sûr, sont sur place. Les médecins aussi, ils donnent les premiers soins aux blessés. Cet attentat qui, je vous le rappelle, a fait, selon un premier bilan, 5 morts et 12 blessés.
Et c'est un bilan qui sera revu dans les heures qui suivent. Le bilan final est très lourd. 6 morts, 22 blessés, dont certains sont très gravement atteints. Bonjour Pierre Julien.
Bonjour Jacques.
On vient de vous entendre à l'instant. Je vous ai demandé de venir pour nous remettre dans l'ambiance de ce jour et de l'enquête que vous avez évidemment suivie pour RTL. En face de vous, Jean-Marie Ponto. Bonjour.
Bonjour.
Et merci. À l'époque, vous travailliez au Point. Et pour le Point, bien sûr, vous êtes rendu sur place, vous aussi, dans les heures ou dans les jours qui ont suivi.
Absolument. Je suis arrivé quelques heures après, et après, on a fait 4 pages, on a reconstitué toute l'histoire à partir des témoignages.
Maître Jakubowicz est également avec nous. Vous étiez. Est-ce que vous vous souvenez de où vous étiez, Alain Jakubowicz, ce jour-là?
Non, pas particulièrement, mais je me souviens de votre flash, et je me souviens bien sûr, comme tous les Français, directement concernés par. Cet effroyable attentat, vous le rappeliez tout à l'heure, le premier attentat antisémite, clairement antisémite, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, il y en a eu bien d'autres depuis. Et surtout un attentat dans un quartier emblématique, vraiment.
Et oui, et vous êtes donc avocat au barreau de Lyon, président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et dans cette affaire, vous êtes partie civile depuis toujours dans l'enquête. Et évidemment, vous serez partie civile dans le futur procès. J'ai une première question avant de saluer Claude Cancès qui nous a rejoint également. Beaucoup s'étonnent de ce laps de temps énorme. 33 ans, on pensait que les faits étaient prescrits.
Alors, je crois qu'il est effectivement très important pour vos auditeurs de savoir qu'il ne s'agit pas d'une imprescriptibilité. Nous ne sommes pas en matière de crime contre l'humanité. Seul le crime contre l'humanité est imprescriptible en droit français et en droit international. Oui. L'imprescriptibilité, c'est une exception du droit qui doit être vraiment, pardon du terme, mais exceptionnelle. Là, le crime est atroce, il est effroyable, mais ce n'est pas un crime contre l'humanité. Alors, pourquoi pouvons-nous juger au bout de plus de 30 ans? Eh bien, tout simplement parce que la justice a bien fait son travail. Mmh. Parce que les services de renseignement et d'enquête ont bien fait leur travail et que des actes interruptifs de prescription sont intervenus à intervalles réguliers permettant aujourd'hui cette affaire de vivre toujours, alors que très souvent, des juges d'instruction perdent contact et puis perdent patience et classent le dossier par un non-lieu. Eh bien là, les juges d'instruction et notamment, bien sûr, le juge Trévidic, qu'il convient de saluer par son opiniâtreté et par sa détermination, n'a pas lâché. Et évidemment, les familles de victimes l'ont en son gré. Donc ça, c'est extrêmement important d'indiquer que c'est parce que la justice a fait, bien fait son travail que ce procès va être possible, nous l'espérons tous.
Et c'est bien, bien sûr très important pour les proches des victimes tuées et pour celles qui ont été blessées ce jour-là. On en parlera en fin d'émission avec votre confrère, maître Ariel Goldman, qui est l'avocat de Guy Benarousse, blessé dans cet attentat. Alors ensemble, on va évidemment refaire le fil de cette enquête, parler de l'atmosphère de l'époque, essayer de comprendre comment les informations qui ont permis au final, 33 ans après, de lancer ces mandats d'arrêt internationaux, comment cela a été possible. Et je salue donc Claude Cancès, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors, ancien patron de la PJ, mais à l'époque, ce jour-là, Claude Cancès, vous êtes par intérim chef de la brigade criminelle, parce que c'est le mois d'août, c'est les vacances.
Oui, Jacques Gential prend des vacances bien méritées et je suis effectivement, je m'assois dans le fauteuil du patron, je suis le Maigret du 36.
Donc aux premières loges, évidemment, avec une affaire comme celle-là, vous allez sur place tout de suite?
Bien sûr, bien sûr. Je déjeunais avec quelques collègues de l'autre côté du boulevard et nous sommes arrivés une demi-heure après. Alors, si vous voulez Jacques, je voudrais replacer l'attentat de la rue de Rosier dans le contexte du mois d'août. Le 36 a vécu au rythme des attentats au mois d'août. Une nuit sur deux, nous avions des attentats par explosifs qui visaient, Dieu soit loué, essentiellement les bâtiments et qui n'ont pas fait beaucoup de victimes. Mais action directe, les Corses, les Bretons, les Basques, les Palestiniens, les Arméniens, ça pétait toutes les nuits. Le 21 août, nous avons eu un drame au sein de notre maison, la mort d'un des ingénieurs du laboratoire central et d'un technicien qui était venu pour désamorcer une bombe qui avait été déposée sous la voiture d'un attaché militaire d'ambassade des USA. Ils sont morts tous les deux au moment de...
Donc une ambiance extrêmement tendue.
Ce mois d'août, ça a été terrible. Mais, comme vous le rappeliez tout à l'heure en début d'émission, cet attentat de la rue de Rosier, c'était inédit pour les flics du 36, comme pour toute la France. Depuis la Libération, on n'avait pas connu un attentat aussi meurtrier, commis dans des conditions aussi horribles.
Alors, il faut dire aussi, on va en dire un petit mot avant la pause, avec Jean-Marie Ponto et Pierre Julien. Jean-Marie Ponto, il faut dire qu'il y a des policiers qui déjeunaient pas loin de là, qui ont été parmi les premiers arrivés sur place.
Absolument, il y avait des policiers qui étaient là, et d'ailleurs, il y a eu une méprise épouvantable, parce que l'un des responsables de Galdenberg, en voyant rentrer un policier en civil, a cru que c'était un assaillant, il lui a tiré dessus, il a été blessé assez grièvement.
Oui, c'était le fils de Joe Goldberg qui était à l'étage, qui avait un fusil de chasse et qui a pris un des policiers pour un terroriste, il lui a tiré dessus.
Alors, quand vous êtes arrivé, Pierre-Julien, c'était très, très... quelques dizaines de minutes après les faits, vous arrivez dans une atmosphère de panique générale.
Un petit peu particulier parce que vous parliez de déjeuner, mais c'est exactement la même chose. En fait, moi, tout simplement, c'est peut-être ce jour de mois d'août, on se dit, on va être tranquille enfin. Parce que comme vous le disiez, Claude Cancès, il y a eu des attentats, on a commencé à suivre tout ça et on se dit, oh tiens. Et je suis en fait avec le motard de service, comme on dit, le motard technique François Guézy, en train de déjeuner sur une petite brasserie là qui est juste en face des RTL, qui s'appelait Pépita. Et puis là, pas de portable à l'époque, donc on reçoit un coup de fil et on nous dit, « Oh, il y a une fusillade rue des Rosiers, est-ce que tu peux aller faire un tour ?» On a garé la moto juste là, juste devant le 22 de la rue Bayard, donc ça nous permet d'être parmi les tout premiers à être sur place. Et c'est vrai que là, c'est terrible, parce que on arrive, alors évidemment, on se fait doubler par les pompiers, on se fait doubler par la police, mais quand même, on arrive à garer la moto quelque part. Moi, je sors avec mon nagra, c'est-à-dire le magnétophone, on s'approche au plus près, et puis là, vous avez un sentiment d'horreur. Je garderai moi toujours cette impression de compter les morts. C'est terrible, en même temps ça nous protège peut-être, comme une caméra, comme un stylo, le micro à la main protège peut-être, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, vous m'entendez d'ailleurs, avec une voix peut-être un peu différente, j'étais plus jeune, dire on en est à un bilan provisoire de 5 morts, j'ai tout de suite une personne qui est devant moi traumatisée, je tends mon micro, je lui dis « Madame, vous avez vu quelque chose ?» Elle me dit « Oui, je suis la caissière », elle m'explique, elle me parle de la grenade, et quand je lui dis « Mais vous étiez avec quelqu'un ?» Elle me dit « Oui, il y a une deuxième caissière, elle y allait où ?» Et là, elle a un mouvement de bras, et il y a une personne allongée, recouverte d'un drap, c'est la deuxième caissière.
Alors, on va faire une première pause dans cette émission. Bien sûr, si vous avez des questions, des réactions, des témoignages, vous pouvez nous joindre au 3210, comme chaque jour, ou par rtl.fr pour les courriels. On se retrouve dans un tout petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
On vous raconte aujourd'hui, bien sûr, ce qui s'est passé en ce 9 août 1982. On va, dans un instant, vous raconter aussi les coulisses d'une enquête qui a été très très longue, puisqu'il a fallu attendre 33 ans, comme on l'a dit, pour avoir vraiment maintenant des pistes à suivre et pour avoir la certitude d'avoir identifié les membres de ce commando. Reste maintenant à ce qu'ils soient extradés, interrogés, mis en examen. C'est déjà fait, je crois que les mandats d'arrêt internationaux, je parle sous votre contrôle, Jean-Marie Ponto, sont accompagnés d'une mise en examen.
Hein. Absolument, les trois, il y a quatre mandats d'arrêt et un qui n'a pas eu lieu parce que d'une personne est décédée apparemment.
Alors, après, avec vous, Claude Cancès, oui.
En principe, on a l'arrêt délivré quand on a mis à l'examen. Donc, je pense qu'ils sont mis à l'examen, oui.
Voilà. Alors, on va entendre un document RTL. Après, avec Jean-Marie Ponto et Pierre Julien, on reviendra sur le scénario de ce qui s'est vraiment passé, comment les choses se sont enchaînées. Mais d'abord ce reportage d'Alain Hamon, qui, évidemment, toute la rédaction d'RTL est mobilisée. Pierre Julien est déjà sur place. Alain Hamon arrive vers 14h30 sur place et il arrive, lui aussi, dans une atmosphère de panique.
Des corps sur des brancards, soignés sous un porche, des cadavres que l'on emmène criblés de balles à travers la rue des Rosiers, une énorme panique parmi les services de secours et les témoins de l'attentat. Voici quelques minutes, les policiers présents ici se distribuaient gilets pare-balles et armes automatiques à la volée, incertains qu'ils étaient de la présence encore sur place d'individus armés. En fait, on en sait un peu plus maintenant sur ce qui s'est réellement passé vers 13h20 dans le restaurant Goldenberg, au coin de la rue Ferdinand Duval et de la rue des Rosiers, en plein quartier du Marais. Selon les enquêteurs de la 3e brigade territoriale et des commissariats avoisinants arrivés très vite sur place, deux hommes armés de petits pistolets mitrailleurs genre Uzi, les mitraillettes israéliennes, sont entrés dans le restaurant Goldenberg et ont arrosé la clientèle. En quelques secondes, tout était terminé, mais dehors, le drame reprenait. Une patrouille d'inspecteurs du commissariat du 4e arrondissement, qui passait par là, ouvrait le feu sur les terroristes. Au premier étage du restaurant, un témoin, les prenant pour ces terroristes, justement, déchargeait sur les policiers son fusil à canon scié. Un des policiers était atteint sérieusement au visage. Pendant ce temps, les deux tireurs, pour l'instant, ils semble qu'il n'ait été que deux, les deux tireurs s'enfuyaient au volant d'une voiture blanche. Un autre des inspecteurs de police les poursuivait à pied en déchargeant son arme sur leur véhicule. Nouvelle fusillade, le policier était tué sur le coup. Pour l'instant donc, et sans que l'on puisse officialiser ce bilan, le nombre de victimes s'élève à 5, vous venez de le dire, peut-être 6 et une demi-douzaine de blessés qui sont encore soignés sur place dans une panique indescriptible.
Ah, il faut dire que c'est moins d'une heure après le début de cet événement terrible. Évidemment, les reporters glanent les informations qu'ils peuvent. Il y a une atmosphère aussi de pression énorme sur les journalistes dans ces cas-là. On peut remettre les choses en ordre, Jean-Marie Ponto et Pierre Julien, pour que vous nous racontiez tous les deux.
La façon dont ça s'est comment passé. Ça s'est passé. C'était dans cette espèce de rue, vous savez, qui est une rue assez petite, assez étroite. Tout d'un coup, il y a quatre hommes, en fait, qui font irruption dans la foule, deux qui rentrent dans le restaurant de Goldenberg, qui vont lancer une grenade, puis rafaler. Ils vont tuer immédiatement une des personnes du service. Ils vont poursuivre jusqu'aux cuisines une des femmes pour lui tirer dessus. Et ils ressortent. Il y a une Américaine qui est tuée à ce moment par la grenade. Oui. Et quand ils ressortent, il y a une scène que tous les témoins ont décrit qui est hallucinante. C'est qu'ils sont comme à la parade militaire. C'est-à-dire qu'ils marchent quasiment au pas, et ils tuent, ils tirent comme
très
ça.
Grand sang-froid, quoi,
très grand sang-froid. Ils tuent en passant. Ils tirent en passant comme ça, les gens, y compris des gens dans les voitures, des gens dans devant, enfin n'importe qui passe comme ça, mais très calme.
Et Claude Cancès, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit tout de suite, ça m'a fait penser quand il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo.
Vous savez que
j'ai fait un rapport entre les deux événements.
Dès que j'ai appris ce qui s'était passé chez Charlie, j'ai pas pu m'empêcher de revoir ce qui s'était passé à travers rue des Rosiers, à travers les témoignages, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéo.
Mais ce fameux sang-froid.
Voilà.
Charlie, c'est un des deux tueurs qui ramasse une chaussure, je crois, avant de remonter dans sa voiture et de s'enfuir.
Comme le disait Jean-Marie Ponto, quand il s'enfuit du côté de la voiture, il y en a un qui perd un chargeur. Il se retourne, sur ses pas, il y a un témoin qui le voit ramasser le chargeur. Et plus grave. Vous savez, dans la vidéo qu'on voit chez Charlie, quand notre collègue, le flicard, est à terre et que le terroriste revient sur ses pas pour l'achever, à l'intérieur de la rue des Rosiers, il y a un témoin qui voit, l'Américaine dont parlait Jean-Marie Ponto, la touriste américaine qui est blessée manifestement par la grenade. Il y a un des terroristes qui s'approche et qui l'achève. Et à l'extérieur, il y a un blessé qui va être grièvement blessé, qui va s'en sortir, qui lui aussi prend deux coups de feu. Mmh. Il y en a un terroriste qui tire, l'autre, et il s'en sortira.
Si vous me permettez, c'est ce qui va se passer à Toulouse, à l'école où cette petite fille qui est toujours vivante va être achevée d'une balle dans la tête après avoir été traînée par les cheveux par le terroriste, par Mera. Et là, on voit effectivement un fil conducteur.
C'est là, hein, Pierre-Julien, qu'on voit que ce sont des professionnels. Voilà, c'est une opération commando.
On entendait les témoignages, on ne sait pas s'ils sont deux, voire six. Mmh. Et bien, en réalité, le témoignage vraiment commun, c'est le professionnalisme, avec tous les guillemets possibles, de ces hommes qui sont arrivés, comme vous le disiez, ils ont lancé leurs grenades, ils ont préparé leur opération, c'est systématique, c'est du pro, quoi. Et ils partent, marchant normalement, retrouver le véhicule qui les attend pour s'enfuir et disparaître, avec un armement, et ça on le découvrira plus tard, qui est un armement spécialisé.
Et sourire aux lèvres, selon plusieurs témoins.
Ils ont fait leur travail.
Tout un tyran.
Ils ont fait leur travail de cruauté. Ils ont réussi leur mission. En réalité, ça ressemble étonnamment effectivement à ce qu'on a vécu au mois de janvier.
Mais chose exceptionnelle, détail incroyable, c'est qu'il y avait une voiture de planque des douanes qui planquait sur autre chose, qui s'appelle un sous-marin, et qui voit passer, qui ne comprennent pas ce qui arrive, qui voit passer les tueurs et qui vont donner un témoignage formidable, et surtout qui vont les permettre de les visualiser.
Alors, ces armes dont on parlait, dont Pierre-Julien parlait à l'instant, elles sont très importantes, parce que ça va être le fil à tirer pour les enquêteurs, et on va en parler évidemment, puisqu'on va maintenant revisiter cette enquête avec ses rebondissements, ses vraies pistes et ses fausses pistes, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Tout à l'heure, avec mes invités, nous verrons les perspectives, évidemment, qui se présentent maintenant sur la suite de l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers avec l'identification des membres du commando. Mais d'abord, un point sur l'enquête. Comment s'est menée cette enquête et quels sont les fils sur lesquels les enquêteurs ont pu tirer pour obtenir, justement, des renseignements très importants. Il faut dire que, dès le lendemain de l'attentat, les enquêteurs suspectent l'organisation terroriste palestinienne Abu Nidal. C'est un mouvement, on va dire, hostile à l'OLP de Yasser Arafat, un mouvement qui a déjà commis plusieurs attentats antisémites dans le monde. Écoutez, avant que nous en parlions avec mes invités, écoutez les explications que donnait à l'époque le ministre de l'Intérieur, c'était Gaston Defer. Voici ce qu'il déclarait le lendemain.
La police a découvert sur les lieux des douilles dites de 9 mm courtes et un chargeur du type WZ-63 d'origine polonaise. Or, lors de l'attentat contre une synagogue à Vienne en août 1961, c'était les mêmes armes, le même type d'armes. C'était également le même type d'armes lors de l'assassinat de l'ambassadeur d'Israël à Londres en mai 1982. On peut donc faire un rapprochement entre ces trois attentats et penser que le même matériel a été utilisé, sinon les mêmes hommes, du moins la même organisation, des organisations proches, ont commis cet ensemble d'attentats.
Alors Claude Cancès, bien sûr, on peut faire des rapprochements, mais après il faut prouver ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enchaînement des événements dans l'enquête? Parce que ces armes, comme on le disait tout à l'heure, c'est elles qui ont parlé quand même et qui ont donné la certitude que c'était l'organisation Abu Nidal.
Tout à fait. Il faut se replacer à l'époque 1982. L'Europe, c'est 9 pays. Il y a encore le rideau de fer. La logistique, la police technique et scientifique n'est pas ce qu'elle est en ce moment.
Oui. Pour il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de fichier automatisé des empreintes.
Exactement. Donc, on a un lourd, lourd handicap pour travailler. Mais malgré ce, il y a quand même tous ces éléments que vous venez de faire, vient de rappeler. Oui. Et le juge Bruguière qui démarre cette affaire, qui fait confiance à la criminelle, à la DST, je rappelle aussi qu'à l'époque, les structures antiterroristes n'existaient quasiment pas. Mmh. Il y avait l'UCLAT, ça n'existait pas. On a démarré cette enquête d'une manière un petit peu artisanale, faut bien le dire. Mmh. Mais l'opiniâtreté de Bruyère, qui n'a eu de cesse d'aller à l'étranger, où je l'accompagnais à plusieurs reprises, notamment à Rome, je crois en Autriche, etc., forçait les portes des diplomaties pour établir, bien établir la corrélation entre les attentats de Rome, de Vienne et de Paris. Ouais. Là, on a eu assez rapidement la certitude qu'effectivement Abou Nidal était derrière Abou Nidal qui voulait la destruction de l'État d'Israël, on le sait très bien à cette époque-là. Donc, ces éléments très, très importants. Mais par la suite, il y a eu effectivement le travail des services de renseignement, si j'ai bien compris, et le Trévédé qui a pris la succession de Bruguière, dans le droit fil de ce qu'a fait Bruguière, est arrivé au résultat que l'on connaît maintenant.
Ouais. Alors Jean-Marie Ponto.
Il faut se rendre compte aussi de l'ampleur de ce qu'était le groupe Abou Nidal et de ce qu'il a fait, parce qu'on peut estimer qu'il y a près de 300 morts, 300 victimes faites par le groupe Abou Nidal à travers l'Europe à l'époque. Et effectivement, il y avait des attentats contre les synagogues à Rome, il y a des attentats à Vienne, mais on sait aujourd'hui qu'il avait frappé à Paris en 73 et qu'un des membres, le patron du commando, avait déjà travaillé en 73 sur une prise d'otage à l'Arabie Saoudite à Paris. Donc, il y avait une espèce d'extraordinaire croissance de ce juge. Et ce que va faire effectivement Bruguière, c'est de prouver à partir des armes, parce qu'il faut dire qu'on a retrouvé dans le bois de Boulogne, deux jours après, les armes, un des pistolets mitrailleurs abandonnés dans un sac.
Avec les chargeurs.
Avec les chargeurs. Donc, en remontant de là, d'abord, il va interroger la Pologne, qui va finir par répondre, ce qui était à l'époque assez sportif.
Au bout de plusieurs mois.
Et il va prouver que la même série, dans les mêmes séries d'armes, ont servi dans les attentats à Vienne, à Rome et à Londres. Ce qui permettra d'identifier à coup sûr le groupe Abou Nidal. Après, il faut identifier les tueurs, et ça, c'est encore plus difficile.
Oui. Alors, je me tourne vers Maître Jakubowicz, parce que on rappelait tout à l'heure, vous êtes parti civil depuis le début, mais pendant des mois, il ne s'est pas passé grand-chose.
Bah, écoutez, comme toujours dans ce genre de situation, malheureusement, enfin, on faisait tout à l'heure le parallèle avec Charlie. Les choses, bien sûr, les motivations restent les mêmes, l'antisémitisme violent, virulent et meurtrier, mais le profil a changé. Parce que à cette époque, les terroristes, ils venaient de l'étranger.
Exactement.
Et ils pensaient qu'à une seule chose, c'est prendre leurs jambes à leur cou, et puis partir à l'étranger, et puis recommencer. Aujourd'hui, le profil est malheureusement, il est singulièrement différent. D'abord, ce sont nos enfants, fabriqués et éduqués à l'école de la République, qui pensent qu'à une seule chose, c'est à mourir. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire. Donc il y a là évidemment une modification du champ qui est différent. Pour revenir à votre question, bien sûr que c'est très difficile d'identifier. On est parti, et ça, ces messieurs le connaissent mieux que moi, sur différentes pistes, l'extrême droite, puisque c'était antisémite, et à l'époque, ce qui était antisémite, c'était nécessairement l'extrême droite, les Irlandais, et effectivement, vous rappeliez tout à l'heure le contexte de 82, qui est un contexte tout à fait particulier. Donc la première question, c'est l'identification, et là, qu'est-ce que font les victimes dans ces cas-là? Qui sont parties civiles? Bien, elles attendent que les services d'enquête et de police veuillent bien faire leur travail et le faire bien, et c'est ce qui s'est produit.
Ouais. Alors, comment est-ce que qui peut me dire comment on en arrive à mettre un nom sur un visage? Est-ce qu'on fait des portraits robots?
Ce que va faire Juste Trévédic, qui récupère le dossier en 2007. Et en 2010, il va aller essayer de trouver des anciens membres importants du Fatah qui sont maintenant arrêtés ou qui sont en retraite, si on ose dire, pour les interroger. Et en 2010 et en 2011, il va avoir deux témoignages très très importants, dont l'un à Londres qui va lui dire qui est le chef du groupe de 82, et ensuite un deuxième en septembre 2011 qui viendra à Paris et qui acceptera d'identifier les tueurs. Simplement, pour les identifier, il faut des photos. Donc il n'y aura pas de mandat tant qu'il n'y aura pas eu de photos. Donc le grand travail des policiers et du juge, ça va être de dresser un catalogue photo très très précis qui va permettre de vérifier que c'est bien eux. Et c'est à partir de là que vont être lancés les mandats.
Alors, Pierre-Julien, est-ce qu'on sait, par exemple, d'où ils venaient, quelle a été leur base de repli? Est-ce que vous savez ça?
En fait, tout ça, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, on a commencé à regarder de très près Abou Nidal. C'est vrai que ça a été une des premières pistes.
C'était basé où
Ils ont été en Libye, ils se sont surtout entraînés là-bas, et puis différents camps, évidemment, liés, où on retrouve d'ailleurs ces mouvances terroristes. On parlait des Irlandais tout à l'heure, c'est vrai que les pistes pouvaient éventuellement, pourquoi pas à un moment donné, se croiser. Et puis, le plus dur, à partir du moment où on élimine les pistes néo-nazis, puisqu'on a même pensé à un moment donné que c'était des mouvements qui venaient d'Allemagne, les mouvements Hoffmann qui avaient été dissous. En réalité, donc, c'est Abou Nidal. Le plus dur était d'identifier effectivement ces personnes. On avait des traces, on a les services de renseignement aussi qui peuvent nous indiquer. Et puis, allez, il y a toujours un jeu politico, service secret qui fait que on peut profiter d'amis et d'ennemis, jouer un peu là-dessus et petit à petit cibler les personnes. Et ce qui s'est passé. Allez, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui ont parlé. Et donc, à partir de là, ça facilite les choses.
Alors, on fait une pause et puis on va continuer à vous expliquer le dessous des cartes, puisque j'ai la chance d'avoir autour de moi les meilleurs connaisseurs du dossier. Allez, disons-le.
L'heure du crime sur RTL.
Évidemment, à propos de l'attentat de la rue des Rosiers et de ce rebondissement spectaculaire de l'enquête, presque 33 ans plus tard, tout le monde salue le travail du juge Trévidic. On a cité le nom du juge Bruguière, également Jean-Louis Bruguière, qui était le juge d'instruction chargé de l'affaire à l'époque. Il était l'invité la semaine dernière sur RTL, dans RTL Soir, de Marc-Olivier Fogiel. Et vous allez l'entendre au cours de cette conversation téléphonique. Il confirmait que dès le début de l'enquête, il avait aussi privilégié cette piste à Bounidal.
Cette piste, effectivement, a été privilégiée très rapidement après l'attentat. On avait des éléments matériels qui permettaient de le dire parce qu'on avait récupéré une des armes et on a pu établir que cette arme avait été livrée par la Pologne à des groupes palestiniens. Mm-hmm. Donc la piste à Bounidal est évidemment privilégiée. Le problème était d'avoir des éléments probants de preuve. C'est le travail de la justice. L'important, c'est de voir que la justice fonctionne, que la justice ne peut pas ne pas fonctionner, que ces gens ne peuvent pas échapper à la justice de ce pays. Voilà. Il est important dans ce pays, si vous voulez, que c'est un des pays qui n'oublie pas et pour lesquels les dossiers restent toujours ouverts, quel que soit le temps, pour permettre que les auteurs soient identifiés.
Sur ces trois personnes, il y en a un qui habite en Norvège, qui est susceptible, on l'espère, d'être extradé. Pour les deux autres, qui habitent en Palestine et en Jordanie, il y a peu de chances qu'ils soient jugés en leur présence, peut-être par contumace.
Mais vous savez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible en Norvège. Ça ne posera pas beaucoup de problèmes. C'est davantage, bien sûr, avec la Palestine et avec la Jordanie. Un peu complexe, en plus dans un contexte difficile actuellement. Voilà. Mais tout ça est gérable et je suis assez confiant, même pour ceux qui ne sont pas du continent européen.
Voilà, donc ce que disait la semaine dernière le juge Bruguière. Alors, Jean-Marie Ponto, juge Bruguière et Marc-Olivier Fogiel, dans la conversation, rappelait donc qu'on a identifié ces gens et on les a localisés également à Gaza, en Jordanie, en Norvège. Comment on est arrivé à cette certitude?
Effectivement, c'est grâce à des gens, à des témoins, à des anciens responsables du groupe qui ont accepté de témoigner. Deux qui ont témoigné sous X et un qui a fini par accepter de témoigner sous son identité. Il a donc livré trois noms qui ont permis de donner les trois mandats d'arrêt.
Ce sont les trois des personnes qui étaient les armes à la main.
Alors,
ce jour-là.
Il y a le chef du groupe qui était attaqué, celui qui était qui a monté l'opération, qui a donné les armes et qui est parti le soir de l'opération. Qui lui se trouve en Jordanie. Oui. Il y avait ce qu'ils ont appelé le superviseur, qui est celui qui lui était sur le terrain avec les armes et qui est en Cisjordanie. Et puis il y avait un des tueurs, Zayed, qui est, on l'a dit, en Norvège, qu'on a retrouvé la trace en Norvège. Oui. Tous ont été reconnus par ces grands témoins, si on peut dire, à partir de photos. Mmh. Ce que, moi, d'après mes informations, c'est que le troisième tueur a été identifié et vient d'être reconnu sur photo, donc je pense qu'il y a un mandat d'arrêt.
Quatrième
mandat d'arrêt, et le quatrième tueur serait décédé, identifié, mais décédé. D'accord. Donc on a quand même...
Donc on aurait vraiment bouclé...
On a bouclé pour la rue des Rosiers, sauf que c'est pour tout l'ensemble des attentats, parce qu'ils ont fait beaucoup d'attentats. Oui, donc on remonte la piste de tous ces gens-là.
Alors, d'un mot, Claude Cancès, en fait, il y a le temps, ça veut dire qu'il y a l'opiniâtreté de tout le monde, juge d'instruction, policier, parce que ça a continué, il a fallu aller chercher ces informations. Quel bilan vous tirez, vous, d'une affaire comme celle-là?
Le juge Bruguière vient de dire avec juste raison que ces dossiers-là ne sont jamais abandonnés. Les hommes passent, les dossiers restent, et jusqu'au bout, comme les affaires criminelles, une affaire qui n'est pas solutionnée, même s'il y a les délais de prescription sont passés, les gens continuent à travailler, sont toujours très motivés.
Ouais.
Très, très
mais motivés. Là, en l'occurrence, comme Alain Jacobovic nous le disait tout à l'heure, il n'y a pas de prescription.
Il y a une prescription, mais elle est interrompue.
Oui,
elle est interrompue.
Elle est interrompue. Mais donc,
c'est pas un prescriptif, je le répète. Oui. Il y a une prescription, mais elle est interrompue.
C'est comme pour les crimes de sang, c'est 10 ans.
C'est la même chose. Oui. Absolument, c'est un crime. Voilà. C'est un crime. C'est-à-dire, on a trois types de délits: contravention, délit, crime.
D'accord. Voilà.
Et puis le crime contre l'humanité, qui lui est imprescriptif. Voilà.
D'accord.
Donc c'est la prescription criminelle qui s'applique.
Depuis 33 ans, au bout de quelques années, il y a un acte. Bon, ça repousse de 10 ans.
Absolument. Chaque fois qu'un acte, il faut comprendre ça. Chaque fois qu'un acte est accompli, la prescription repart.
Vous y croyez à l'extradition celui qui vit en Norvège. Parlons de l'Europe.
Écoutez, moi je vais vous surprendre.
La Jordanie.
Moi, je vais vous surprendre, sans doute. Mais moi, j'y crois.
Moi aussi.
J'y crois à tout. Parce que je crois en la justice.
Tout le monde, oui.
Vous savez, oui. 82, pour moi, ça me rappelle quelque chose. Sans doute à vous également et à vos auditeurs. En 82, rien à voir, mais Barbie arrive en France, à Lyon. Personne ne croyait que Barbie reviendrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le régime change, une extradition d'un national, mais déchu de sa nationalité. Il était bolivien, on l'a déchu de sa nationalité, bien sûr. On l'a ramené. La volonté des États, et c'est ça qui est le plus important. Ce message doit être lancé à tous les terroristes de la Terre, qu'on ira les débusquer, qu'on les arrêtera et qu'on les jugera. Pour cela, il faut une volonté politique. Oui. Je crois que cette politique existe, alors il ne suffit pas qu'elle existe en France, il faut qu'elle existe dans le monde, et notamment en Europe. Il faut absolument une coopération internationale en matière d'extradition des terroristes. Cela est absolument indispensable. Et même pour celui qui se trouve aujourd'hui en Jordanie, moi je ne désespère absolument pas. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a une convention d'extradition entre la France et la Jordanie à vérifier, mais je crois le savoir. Ce sujet est évidemment sur le bureau des ministres concernés. Moi j'y crois et je veux y croire et c'est fondamentalement le message de la justice qui doit être entendu.
Donc il y a des accords d'extradition par exemple avec la Jordanie mais pas avec la Norvège.
La Norvège, le problème c'est qu'il est norvégien et qu'on n'extrade pas un national. Ensuite, même la déchéance d'une nationalité est très compliquée, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les conventions internationales ne permettent pas le statut d'apatride. C'est-à-dire que lorsque l'on perd une nationalité, on se retrouve apatride. La question est de savoir s'il a conservé, lui, une autre nationalité, par exemple la nationalité palestinienne. Enfin, tout ça est extrêmement complexe, mais rien n'est insurmontable en matière de justice.
Ouais, il y a peut-être, Jean-Marie Ponto, même d'autres éléments qui pourraient permettre de le déchoir de sa nationalité.
D'abord, il y a un élément politique, qui est ce qui s'est passé au Danemark.
Oui.
Les événements du Danemark font que la Norvège va être quand même dans une situation un peu plus délicate maintenant, et elle va sans doute vouloir collaborer. Mais ce qui s'est passé, c'est que le juge Trevelyan a fait une commission rogatoire en Norvège, et il a examiné les conditions dans lesquelles avait été la nationalité
attribuée.
Il a montré aux Norvégiens qu'il y avait des éléments qui étaient faux dans ce qu'ils avaient donné. Donc ça permettrait aux Norvégiens, à partir de ces éléments faux, effectivement, de déchoir sa nationalité et de le faire extrader. Et je crois aussi vraiment à la volonté dans le contexte actuel politique.
Il y a toujours des éléments faux. Ça a été vrai pour Barbie. Pourquoi ils l'ont déchu en Bolivie? Parce qu'effectivement, il avait menti sur sa véritable identité. Je rajoute quand même dans des éléments optimistes, puisqu'on en parlait, l'attentat de la rue Copernic. On a identifié le Canada ne voulait pas extrader. Ça a duré 6 ans. Et cette extradition a eu lieu.
Et même, je crois qu'il faut rendre justice au justice qui a réussi à prouver Carlos, la participation de Carlos à l'attentat dans le drugstore à Paris et à le renvoyer devant les assises à partir d'éléments.
Donc c'est pas mission impossible. Voilà, ça c'est clair.
Quand on fait le bilan.
Je vous donne la parole tout de suite après la pause, Claude Cancès, et je profite que vous soyez habitué de l'émission. Je sais que vous allez me comprendre. On se retrouve dans quelques minutes.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
On continue donc à décrypter avec mes invités cette très très longue enquête, 33 ans, émaillée évidemment de fausses pistes, mais en même temps avec cette rigueur qu'il faut saluer aujourd'hui, de l'ensemble du corps judiciaire et policier qui a su, comme nous le rappelait Alain Jakubowicz tout à l'heure, au bon moment faire des actes d'enquête qui repoussent d'autant la prescription, ce qui permet 33 ans après de se dire eh ben maintenant, voilà, on sait, on a identifié, il reste un gros boulot à faire maintenant, c'est que ces gens puissent un jour répondre de leurs actes devant la justice. Alors, on parlait tout à l'heure de la difficulté avec la Norvège, mais pas tant que ça, Pierre-Julien. On peut imaginer que la personne qui est à Gaza...
Ça sera plus difficile.
Qu'est-ce qu'il en est de la Jordanie?
C'est vrai qu'avec la Jordanie, les relations avec la France sont plutôt bonnes actuellement. Rappelons, on a même nos Mirage 2000D qui sont déployés en Jordanie pour combattre l'État islamique. Et puis, c'est peut-être aussi finalement pour Amman l'occasion de régler les derniers comptes avec ses branches palestinienne qui voulait finalement, certes, la destruction d'Israël, mais aussi renverser Hussein de Jordanie, roi. Et on se souvient que les Jordaniens, la Légion arabe notamment, n'a pas été très tendre avec les Palestiniens. Septembre noir est encore dans toutes les mémoires.
Alors, on va prendre maintenant en ligne Maître Ariel Goldman. Vous êtes là, Maître ?
Oui.
Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps aussi pour à passer avec nous cet après-midi. Vous êtes l'avocat de Guy Benarous, blessé dans cet attentat. Alors, bien sûr, on a évoqué les victimes dans cette émission, mais puisque vous êtes l'avocat d'un des survivants de cette horreur, dans quel état est-il votre client ? Il espère que ce procès va pouvoir avoir lieu ?
Écoutez, tout d'abord, c'est effectivement quelqu'un qui était âgé de 16 ans au moment des faits, donc j'ai envie de dire à la fois grand et à la fois petit pour subir une agression pareille, en tout cas pour s'en remettre. Il s'est reconstruit, bien sûr, puisque c'était un jeune adolescent qui a été bien entouré par sa famille et par ses amis. Et aujourd'hui, bien écoutez, c'est vrai que ces dernières nouvelles que le juge nous a précisées lundi dernier font comme... pour lui, une lueur d'espoir, parce que la reconstruction n'est jamais totale quand on a été victime d'actes en général et de terrorisme en particulier, et que la perspective d'un procès fait comme une conclusion, une fin, une sorte d'apaisement, en tout cas pour mon client.
Oui, vous étiez à cette réunion, il y a eu une réunion donc d'information organisée par le juge Trévidic lundi de la semaine dernière. Il est très confus, ou ce lundi, il y a deux jours,
qui vient de passer, avant-hier.
Il est catégorique sur la tenue. Il a de l'espoir dans la tenue d'un procès. Qu'est-ce qu'il...
Non, il n'est pas catégorique, mais il a de l'espoir. Il a davantage d'espoir qu'il ne pouvait en avoir il y a quelques mois ou quelques années, notamment au regard des investigations qui ont été faites et des mandats d'arrêt internationaux qu'il a lancés. Donc, il a eu l'air positif par rapport à la tenue d'un procès. La grosse inconnue, c'est de savoir, et ça a dû être déjà débattu dans votre émission, si ce sera un procès avec des personnes.
Alors non, justement, on attendait de parler avec vous justement pour aborder c'est juste pour dire à ceux qui nous écoutent, évidemment, cette problématique qui va maintenant exister, ou bien il y a extradition et comparution donc devant une cour de justice, ou bien ça va être un procès qu'on appelait dans le temps par contumace, mais ça a changé, je crois, le vocabulaire. En l'absence, en tout cas, des mis en examen, c'est ça.
Oui, ce sont les deux options procédurales qui vont s'ouvrir, qui risquent de s'ouvrir, c'est-à-dire où on a un ou plusieurs co-prévenus qui viennent répondre des actes qu'on leur reproche, ou effectivement, parce que les extraditions ne se font pas, parce que le temps passe trop, parce que le juge a besoin de, à un moment donné, de rendre une ordonnance de renvoi, eh bien, à ce moment-là, c'est un procès, effectivement, qu'on appelait avant par contumace ou qu'on appelle en correctionnel par défaut, qui est rendu hors la présence des personnes mises en cause.
Combien de personnes, de survivants ou de membres proches des familles des victimes se sont portées partie civile à votre connaissance ?
Alors, je n'ai pas le nombre exact, parce que contrairement aux affaires récentes et je dirais à toutes les affaires postérieures à la grande loi de 1986 sur le terrorisme, les choses n'ont pas été très organisées pour les victimes au moment des faits, et donc on en est encore à ce que le juge nous demande de lancer quelques appels s'il y avait des héritiers de victimes ou des descendants de victimes ou des victimes. Donc j'ai
C'est le moment pour que ces victimes se manifestent, si je comprends bien.
C'est encore le moment, et largement le moment, oui.
Oui. Alain, je reviens à vous dans un instant. Alain Jakubowicz, vous me disiez hors micro tout à l'heure que, par exemple, vous êtes partie civile donc dans ce dossier pour quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à entrer dans le dossier.
Alors effectivement, cet événement nouveau a conduit, et là il s'agit d'une famille qui a perdu un proche, c'est carrément son père, qui ne s'était pas manifesté jusqu'à présent.
Mais
les gens ne croyaient pas vraiment à la justice et à ce que la vérité soit dite. Et là, vraiment, c'est pour ça que c'était aussi une réconciliation, je dirais, de la société avec sa justice, de montrer qu'elle est efficace, que les services travaillent, que l'on n'oublie pas ce message qui est envoyé à la fois aux familles de victimes, mais également aux terroristes. Ouais. Et puis, à chacun d'entre nous, à nos concitoyens, il faut que vos auditeurs comprennent qu'on est tous concernés. C'est pas parce que c'était une cible juive qui était visée que Pierre, Paul ou Jacques ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, dans cette famille qui vient de se manifester, il s'agit d'une famille de tziganes. Et je trouve que l'image est extrêmement forte. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et vos auditeurs auraient bien tort de considérer que parce que c'est une histoire qui vient du Moyen-Orient avec les Juifs, les Arabes, les Musulmans, etc., nous sommes tous concernés et c'est un combat commun.
Voilà, donc on peut relayer dans cette émission, évidemment, cet appel.
D'après mes informations, il y a eu deux nouvelles parties civiles, dont la vôtre, depuis la sortie de la révélation des mandats d'arrêt. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un appel à témoins.
Claude Concepcion,
les Français l'ont bien compris, le 11 janvier.
Mais on sait que les Français comprennent et puis parfois oublient aussi, vous savez, ces combats.
On est tout à fait d'accord.
C'est un combat de tous les jours.
La police a été applaudie.
C'est un combat de tous les jours.
Quand tu étais embrassé,
apparemment, la justice n'oublie pas tant que ça.
La justice, vous avez raison.
Je vous remercie beaucoup, Maître Goldman, donc, d'avoir fait le point, en tout cas en ce qui concerne la personne que vous représentez. Vous-même, évidemment, vous ne doutez pas non plus de la tenue de ce procès. Ça prendra peut-être du temps, mais voilà, on peut avoir cet espoir. Juste d'un mot. Que risque devant la justice et devant quelle cour de justice vont comparaître les auteurs si un jour ils viennent physiquement répondre de leurs actes?
C'est moi que vous interrogez.
Oui, absolument.
Ils risquent, à mon avis, la perpétuité, je pense, très très certainement, et ce sera une cour d'assises spéciale. Puisque là, pour le coup, la loi sur le terrorisme de 1986 qui a prévu ces dispositions s'appliquera. Un point un petit peu technique, mais très intéressant. Dans la mesure où nous étions...
C'est le dernier point parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais allez-y, je vous en prie.
L'information n'a pas été ouverte sur le terrorisme. Elle est ouverte comme une information de droit commun.
D'accord.
Parce qu'on se situe avant 1986, ce qui oblige à des règles un peu plus particulières que celles du terrorisme.
En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Maître. Merci, Alain Jakubowicz. Merci à tous mes invités, Claude Cancès, Jean-Marie Ponteau et Pierre Julien. Je crois que vous nous avez largement contribué à éclairer ce dossier, qui peut paraître un peu compliqué, mais on comprend mieux maintenant. Et puis, je termine simplement en relayant donc cet appel qui est lancé par le juge Trévidic en disant si vous faites partie des proches de personnes qui ont été tuées en 1982 chez Golden ou de proches de personnes, si vous avez vous-même été blessé à cette occasion, il faut absolument vous manifester auprès de la justice. L'émission est terminée et on va retrouver Flavie Flamand en quelques secondes.